Je suis un ingénieur agronome, un ingénieur des eaux et forêts. J'avais choisi ce métier, merci, parce que j'aimais vivre au grand air. Et oui, c'est une vie réussie puisque j'ai passé l'essentiel de ma vie dans les caves et dans les hôpitaux. Et ça s'est trouvé par hasard aux États-Unis, donc où je faisais des études. J'ai pris un cours avec un professeur qui travaillait sur les innovations dans les hôpitaux américains, qui m'a dit, écoutez, pourquoi vous ne faites pas une thèse? Alors je lui ai dit, ce qui est intraduisible en anglais, hein, je fais partie d'un corps de l'État, et ils se moqueront totalement du fait que je fasse une thèse, qui s'est prouvée authentique d'ailleurs, mais j'accepterai, si vous, l'université, acceptez que je fasse mon MBA et mon doctorat en même temps. Voilà. Donc il se trouve que j'ai écrit une thèse de PhD sur les innovations dans les hôpitaux américains. Il se trouve aussi que quand je suis revenu des États-Unis, j'étais relativement inadapté, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que vous avez connaître le nom, qui s'appelle Bertrand Collomb, qui a été jusqu'à une date récente le président de la Farge. Et Bertrand crée le laboratoire de gestion de l'école polytechnique, donc j'ai travaillé à l'IX comme chercheur pendant presque 10 ans, tout en faisant autre chose, et j'ai travaillé à l'assistance publique de Paris dans les années 70, où j'ai monté le service des études économiques, et puis je suis revenu au monde agricole. Donc je découvre le monde de l'hôpital d'une manière intellectuelle, d'abord, et il me fascine parce que je pense qu'on ne peut traiter aucun problème de santé sans prendre en compte 3 dimensions. Certes, la dimension économique, managériale, vous l'appelez comme vous voulez, la dimension technique. Je pense qu'on ne peut pas gérer un hôpital sans s'intéresser aux techniques hospitalières, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Et bien entendu, la dimension est éthique et philosophique. Et une des choses qui me frappe donc, quand je me plonge dans ce monde, alors ensuite je passerai pas mal de temps dans les hôpitaux américains, quand je me plonge dans ce monde, c'est que je trouve le paiement à la journée absurde. Je trouve le paiement à la journée absurde parce que c'est reconnaître que la médecine ne sait pas soigner. Si vous voulez, n'oubliez pas que dans tous les systèmes de tarification, il y a de la philosophie derrière. C'est-à-dire, quand on paye à la journée, ça veut dire que plus de journées, c'est mieux que moins de journées. Bon, c'est assez évident du point de vue économique. Hein. Et on voit bien que le prix de journée, si vous voulez, c'est la fin de la tradition sociale du secteur hospitalier. Je ne sais pas si vous savez tous ici, mais jusqu'en 1940, des gens comme vous et moi n'auraient pas pu être admis à l'hôpital public, puisque être admis à l'hôpital public jusqu'en 1940, il fallait être ou indigent ou accidenté du travail, ou militaire. Et c'est pour ça qu'il y a des cliniques privées en France. Hein. Il y a des cliniques privées en France parce que la petite, moyenne ou grande bourgeoisie avait besoin d'établissements pour être soignée. Et c'est ça l'origine et la particularité du système. Donc l'hôpital traite ou plutôt prend en charge les malades pauvres et le paiement à la journée est tout à fait légitime. Il l'est d'ailleurs, à mon avis, toujours pour une partie des fonctions sociales et notamment les établissements de moyens non-séjour et les établissements médico-sociaux. Alors vous savez que les nomenclatures, en fait, il y a toujours eu aux États-Unis comme en France un double système. On payait à la journée. Et il y avait une nomenclature des actes chirurgicaux qui, comme vous le savez en France, remonte à 1930. En fait, on fait très souvent remonter l'histoire de la sécurité sociale à 1945. En fait, l'essentiel a été joué entre 28 et 30, et notamment les nomenclatures. Quand vous regardez la NGAP qui a été remplacée récemment par la CCAM, la NGAP remonte à 1930. Donc vous avez ces deux systèmes, et vous savez que le système des prix de journée va se sophistiquer, et quand on passera à la dotation globale, j'en dirai un mot tout à l'heure, on avait à l'assistance publique de Paris 27 prix de journée différents, qui étaient des prix de journée par spécialité. Donc on avait des prix de journée en chirurgie cardiaque, on avait des prix de journée en réa, on avait des prix de journée, etc. Et on verra que cette hypothèse, enfin, était à mon avis une hypothèse techniquement infondée. Alors, bien entendu, dès les années 60, il y a des travaux sur comment mesure-t-on l'activité dans l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que le produit hospitalier? Alors, en France, ce nom a été oublié parce qu'il est mort assez jeune, mais le fondateur du CREDOC, qui est devenu le CREDES, qui s'appelle aujourd'hui l'IRDES, était un médecin qui s'appelait Dr Roche, et qui a fait les premiers travaux avec Simone Sandier, les Misrahi, etc., qui a fait les premiers travaux sur l'économie de la santé. Et Roche comme tout le monde et d'ailleurs comme moi, regarder plutôt du côté des classifications des maladies et des classifications de l'OMS, dont on peut dire que, enfin, la 10e classification n'est pas mauvaise, mais la 8e et la 9e étaient assez imparfaites et, comme vous le savez, notamment faites pour les pays du tiers-monde, très détaillées sur les maladies infectieuses, mais peu détaillées sur les maladies de système. Et les Américains, notamment, ont modifié la 9e classification pour pouvoir prendre en compte les maladies chroniques que nous connaissons aujourd'hui. Alors, en 1978, j'ai eu, ça m'est arrivé qu'une fois dans la vie, donc la possibilité d'organiser un colloque en invitant qui je voulais pour l'avenir des systèmes de santé. Et j'ai un de mes copains américains qui est aujourd'hui prof à Wharton, qui s'appelle John Kimberley, qui vient souvent en France, qui est professeur à INSEAD également. Et John me dit, écoute, il y a un de mes collègues à Yale, tu devrais l'inviter. J'ai dit, écoute, si tu penses qu'il est bien, oui, invite-le. Voilà, c'est Bob Fetter dont je vais vous dire deux mots. Alors, donc l'inventeur du système de classification des DRG s'appelle Robert Fetter. Bob vient, alors ça c'est très important que vous ayez ça en tête, hein. Bob est un économiste de la production. Alors, l'économie de la production, qu'est-ce que c'est ? C'est l'organisation des usines. Et quand on lui a posé, quand il a gagné ce contrat de la sécurité sociale américaine pour classer les séjours, il était complètement en dehors de notre monde. Il ignorait tout ou presque tout des classifications. Et il a dit, c'est un problème classique de gestion d'entreprise. C'est un problème classique de gestion d'entreprise. Et notamment quand, à l'époque, vous fabriquiez des ordinateurs qui coûtaient très très cher. Hein. Quand il travaillait pour IBM, pour en fin d'année valoriser la moitié d'un ordinateur, un tiers d'ordinateur, comment on fait ça ? Comment valoriser stock, en fait, notamment ? Il va mettre au point des choses que vous connaissez, mais dont je vais redire deux mots. La grande originalité de la classification en DRG, c'est de regarder ce qui s'est passé à la fin du séjour, et non pas au début, parce que tout le monde pensait plutôt que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Et comme vous le savez, la classification n'utilise que 5 variables, mais il en a testé 70. Hein ? Et ces variables sont, comme vous le savez, la procédure chirurgicale, comme on dit en anglais, le diagnostic principal, les diagnostics associés, l'âge et le sexe. Hein ? Donc il est passé de 70 variables à 5. Et vous savez, c'est très important que vous le sachiez, parce que, paraît-il, aujourd'hui, cette connaissance se perd, que cette classification est en partie tautologique. Hein, c'est-à-dire qu'on utilise des variables économiques pour expliquer des variables économiques. Donc il est absolument essentiel que cette classification vive. Bon, la tautologie, bien entendu, et heureusement, n'est pas totale. Mais la grande idée, à mon avis, c'est cette idée-là sur les classifications médico-économiques. Alors, pourquoi j'ai pensé tout de suite que c'était important ? C'est que j'avais une expérience à l'assistance publique de Paris, et à l'époque, l'assistance publique de Paris avait une bonne comptabilité analytique. Ce qui n'était pas le cas la dernière fois que j'ai regardé, où j'ai dit à cette institution qu'elle n'avait pas de système de gestion ni de comptabilité analytique. Mais à l'époque, elle en avait. Elle en avait parce qu'il y avait les prix de journée. Et nous avions un système d'information qui regardait les services comparables. Bon. Et je me souviens d'être jeune comme les plus jeunes d'entre vous, donc je devais avoir 30 ans, 32 ans, d'avoir invité deux grands professeurs cardiologues de l'assistance publique de Paris, qui étaient venus au siège, comme on disait, de l'avenue Victoria, et leur dire, mais écoutez, vous dites que vous êtes le service le plus comparable, mais quand on regarde vos chiffres, rien n'est comparable. C'est absolument incroyable. Le nombre d'infirmiers, le nombre d'actes, le nombre d'actes, etc. Bon. Ah, mais dit mes chers amis, certes, nous sommes les services les plus comparables, mais nous sommes très différents. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, c'est mal parti. Tant qu'on n'aura pas une idée précise de ce que font les services hospitaliers, on n'arrivera pas à discuter. Alors, vous savez que Cette hypothèse sur l'homogénéité des services a été maintenue contre mon avis et mes critiques parfois virulentes par les médecins conseils des caisses d'assurance maladie qui pendant très longtemps ont continué à comparer les services. Alors pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'économie, ça fait une hypothèse qu'il y a une fonction de production unique, or il n'y a pas de fonction de production. C'est-à-dire que de faire l'hypothèse que quand on a un label dans un service qui s'appelle cardiologie, ce qui se passe en dessous est comparable d'un service de cardiologie à l'autre, c'est vraiment se moquer du monde ou très mal connaître les hôpitaux et la médecine. Bref. Alors, j'ai commencé à me rendre compte que ça faisait mal quand, l'année suivante, toujours avec des élèves de l'IX, on a regardé, Necker et la pitié, c'est pas un secret, sur le coût de la dialyse et le coût de la transplantation rénale. Et on s'est aperçu qu'entre ces deux hôpitaux de l'assistance publique de Paris, il y avait des variations de 1 à 3. Alors Jean Necker disait, c'était eux les plus chers, disait, mais nous on fait de la recherche. Alors je lui disais, mais les autres n'en font pas. Ah si, ils en font, bon bref. Donc on voyait que ça commençait à faire mal quand on rentrait dans une définition suffisamment précise de l'activité pour que les médecins la comprennent au sens étymologique du terme. Voilà. Et donc, je pensais que la comptabilité analytique par service était une voie sans issue. Alors, merci, monsieur le directeur général, d'avoir rappelé quelque chose que vous avez aussi, probablement pour la plupart d'entre vous, oublié. C'est que, avant le passage à la dotation globale en 83, il y a eu une parfaite continuité de la République et c'est suffisamment rare pour le signaler, puisqu'il y a une idée de Madame Veil, mais première version de Madame Veil, qui est partie assez vite, que Jacques Barrault, qui était son successeur, a fait voter. Et donc il y a eu une loi expérimentale qui a permis de tester différents systèmes de tarification, dont le système de tarifs éclatés qui était défendu par la Fédération hospitalière de France, qui disait le prix de journée est une définition trop globale, il faut avoir une indication plus précise de ce que font les hôpitaux. Il y avait la dotation globale, testée notamment à l'Hôtel Dieu, et dont le directeur de l'époque était Gérard Vincent, mais pas uniquement l'Hôtel Dieu. Et puis, il y avait le système de prix de journée. Alors, donc quand moi je suis arrivé à la direction des hôpitaux par hasard, en passant ici d'ailleurs, je salue la mémoire de Jacques Ralit, Jacques Latry, pardon, qui était le directeur de cabinet de Jacques Ralit. Alors, il y a aussi des choses de base, simples, c'est qu'il n'y a que trois manières de payer les hôpitaux. Il n'y a pas 50 000. Donc il y a soit les prix de journée, soit la dotation globale, soit l'activité, bien entendu, derrière l'activité, j'aurais dû mettre beaucoup de guillemets. Parce que la question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'activité. D'autant que la dotation globale n'est pas vraiment un système, puisque j'ai tout à fait veillé à ce que l'on mette dans le décret de 83, dans le décret de 83, on n'y est pas encore, mais je saute, la dotation globale est calculée en fonction de l'activité. Le problème de la dotation globale, c'est de savoir comment on la calcule. Alors, vous verrez tout à l'heure qu'on l'a calculée malheureusement sur des bases historiques, mais l'article 13, je crois, du décret du 11 août 83 dit clairement que la dotation globale est calculée en fonction de l'activité. Donc, ce qui repose la question de l'activité. D'accord ? Alors, bien entendu, on peut utiliser conjointement ces trois méthodes. On y reviendra tout à l'heure sur la situation actuelle. Moi, je pense, par exemple, que les MIGAC sont tout à fait légitimes pour une partie de l'activité probablement plus importante qu'aujourd'hui. Aucune n'est parfaite et que la dotation globale, bien entendu, ne résout rien, car la question est de savoir comment on la calcule. Alors, quand je suis nommé, je reprends tout de suite contact avec Bob Fetter. J'embarque Jean-Marie Rodrigue, qui est un de vos collègues, dont on me dit, écoutez, il y a un gauchiste dans un coin, on n'est pas capable de le faire travailler, il est intelligent, mais bon, bref. Alors, il est beaucoup plus hidalgo que gauchiste, comme vous savez, Jean-Marie. Et je lui dis, écoutez, monsieur, voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que vous voulez travailler avec moi ? Alors je dois lui rendre hommage public aujourd'hui, c'est qu'il a fait un travail absolument considérable avec sa très grande capacité de connaître aussi bien les détails que la synthèse, puisque nous avons testé la nomenclature américaine, enfin des GHM, et nous avons recréé des nomenclatures complètes de tous les actes dans les hôpitaux. Alors pourquoi j'ai fait ça ? C'est que la nomenclature, la NGAP, donc je vous parle de 82, la NGAP de l'époque me paraissait déjà totalement inadaptée, très mauvaise indicatrice de l'activité des hôpitaux. Donc non seulement, alors grâce à la base de données de Grenoble, et on doit rendre grâce d'ailleurs à une de vos collègues de Grenoble qui avait collecté à la fin... Bien, bravo, bonjour madame. Oui, bien sûr, bonjour. Grâce à qui, donc, on a pu regarder, en gros, si on faisait la même médecine aux États-Unis qu'en France. C'est ça qu'on a regardé. Donc, on a regardé si les poids relatifs des GHM dans les CMD, je pense que vous parlez tous PMSI, étaient les mêmes. Et la réponse est oui. Donc ça, c'est la première chose qu'on a vérifiée. Et puis, ensuite, on a lancé, grâce à beaucoup de gens, le professeur Monod-Broca notamment, une analyse et la création des lettres clés grecques de toutes les nomenclatures, et de la chirurgie, et de la radiothérapie, et de la napate, et de la biologie. Enfin bon, c'est pas beaucoup d'imagination, mais beaucoup de transpiration. Et beaucoup de rigueur, et tous ceux qui m'ont aidé à l'époque, je n'ai pas cité tous les noms, il y en a dans la salle, sont vraiment... on était très peu, on était une dizaine à faire ça. Voilà. Alors il y avait par ailleurs, on a refait un système comptable. Donc on a modifié la M21, Et on a fait évoluer la comptabilité hospitalière vers la comptabilité d'entreprise. Et on a, avec Pizzioli, lui et moi, écrit de ma blanche main tous les guides de comptabilité analytique de 85, les livres verts, et qui serait bon que les hôpitaux utilisent en 2010. Ça n'a pas changé. Hein. Bon. Donc, voilà. J'ai créé les DIM. Donc, vous devez... votre existence administrative à cette décision. J'ai créé également, ça a moins bien marché, les RSI. Donc on a pensé que les directeurs d'hôpitaux, enfin ceux qui sortaient de l'école de Rennes, ne connaissaient pas grand-chose au système d'information, et que donc on a fait une formation spécifique pour les responsables de systèmes d'information qui leur permettait de connaître un petit peu les problématiques derrière tout ça. Alors, décret de 83, c'est celui-là. Le décret de 83, donc Pierre Bérégovoy était ministre des Affaires sociales. Son directeur de cabinet est quelqu'un que vous connaissez, qui est un homme, c'était Jean-Charles Naouri. Donc, Jean-Charles Naouri est aujourd'hui une des 200 premières fortunes de France. À l'époque, il était aussi fauché que vous et moi. Et Jean-Charles Naouri est quelqu'un qui avait été reçu à Normal Sup Math avec la meilleure moyenne, Évariste Galois compris, et qu'il était passé en maths sup parce qu'il est resté 3 jours, il est passé directement en maths sup. Enfin bon, bref. Donc il pensait un peu plus vite que la moyenne des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et on s'est bagarré, non pas avec lui, mais avec le directeur de la sécurité sociale de l'époque qui voulait uniquement une réforme tarifaire. Et moi, je voulais également une réforme de gestion. Et l'arbitrage a été en ma faveur. Mais en fait, si j'ai gagné sur le tapis, j'ai perdu sur le terrain. Comme vous le savez, quand on est passé à la dotation globale, il y a 2 choses qu'on n'a pas faites pour des raisons que j'expliquerai éventuellement tout à l'heure. Mais on n'a pas réévalué les bilans, ce qui était une erreur. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas les personnes compétentes pour le faire et que la direction du budget ne le souhaitait pas vraiment. Et on a figé les situations de trésorerie avec l'article 58 des établissements hospitaliers, puisqu'on a figé les dettes que l'assurance maladie devait aux hôpitaux, et donc donnant à certains une rente et d'autres d'assez grandes difficultés qu'ils ont portées longtemps, et qui portent pour certains toujours. Voilà. Alors, ensuite, quand on regarde l'application donc, de la... de cette réforme. En gros, la marge de manœuvre donnée à chaque hôpital à l'occasion de la dotation globale était très faible. J'avais calculé que si on donnait toujours aux hôpitaux les moins bien dotés la marge de manœuvre, on en avait pour 350 ans. Donc moi, j'avais quitté l'administration des hôpitaux parce que je trouvais que les arbres mettaient du temps à pousser. Mais vous voyez, la réduction des inégalités en 350 ans, ça me paraissait difficile. D'autant qu'en général, ce n'est pas ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'en général, on donne de l'argent aux mieux dotés plutôt qu'aux moins bien dotés. Alors, néanmoins, et ça vous surprendra, en 73, je crois, la croissance des dépenses hospitalières fut de 28%. 28%. Alors, on avait une inflation de 14%. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce que ça peut représenter. Mais 14% de croissance réelle, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, on va effectivement réduire l'inflation hospitalière de manière assez spectaculaire. On ne va pas réduire les inégalités. On va figer les dotations. Et ce qui sauvera certains établissements, notamment les psy, d'ailleurs, qui doivent, à mon avis, beaucoup à la dotation globale. Alors, par ailleurs, donc, on a tout un travail technique qui continue, donc les nomenclatures, la M21, les guides de compta, et en 85, à mon avis, tout est prêt. Alors moi, je m'en vais en 86, bon, je m'en vais, non pas parce que je m'entendais mal avec Philippe Seguin, au contraire, je m'entendais très bien avec lui, ou Michel Barzac, mais j'avais un peu mon bâton de maréchal, je lui ai dit, écoutez, je suis encore jeune, j'ai envie de faire autre chose. Et je pense, contrairement à beaucoup, que les postes de directeur d'administration centrale sont des postes politiques, et que même si... voilà. Je suis persuadé que dès 87, ça va être généralisé. Alors, mon successeur, lui, il croit pas du tout. Il dit c'est un problème interne, on va pas s'en occuper. Il y a une partie des conseillers de Michel Barzac qui dit mais c'est une réforme de gauche. Enfin bon, bref, pas tous, heureusement. Donc, un successeur hésitant, le successeur de mon successeur, tout ça, c'est, bon, ceux qui les connaissent connaîtront les noms, mais convaincu mais prudent. Et en fait, la réforme va vivoter pendant au moins une bonne dizaine d'années. On va réinventer la roue, on va relancer l'expérience Languedoc-Roussillon, dont on connaissait les résultats de l'expérience, il n'y a pas besoin de commencer. Hein. Donc, bon, bref. On va, comme vous le savez, il y a des amis de l'assistance publique de Paris, notamment deux d'entre eux, qui vont dire « mais ce n'est pas la bonne classification ». Et ils vont retrouver une classification qui sera beaucoup plus tautologique. C'est qu'effectivement, si vous rajoutez le nombre de variables, eh bien, la variance expliquée augmente. Mais bon, ça, c'est assez facile. Et celui qui va relancer, en fait, c'est Bruno Durieux, qui sera, comme vous le savez, ministre de la Santé, trop brièvement, parce que je pense qu'il a été un bon ministre, et qui va remettre cette réforme sur les rails. Et là, ça va repartir. Et la première utilisation donc, va être le point ISA. Et je pense que le point ISA a pas mal d'avantages par rapport à la T2A. On pourra en parler tout à l'heure. Et le débat d'aujourd'hui, j'ai presque fini pour qu'on puisse parler, de savoir qu'est-ce qu'on met dans les MIGAC. Qu'est-ce qu'on met dans la tarification de l'activité, parce que la question de qu'est-ce que c'est que l'activité demeure toujours une question importante. Et les hôpitaux ne font pas que soigner des malades classés en GHS. Oui. Ils ont aussi un certain nombre de fonctions collectives qu'il importe de rémunérer en tant que telles, et dont je pense que de rentrer dans des niveaux de précision trop étroits conduit à dire et à faire des bêtises. Alors, c'est pareil également sur les consultations. Bon, vous savez qu'un des drames du système actuel, c'est que les consultations sont sous-valorisées dans le privé, elles sont absurdes dans le public. C'est-à-dire qu'un hôpital, quand il y a une consultation, se fait payer un CS. Quand le patient a le courage d'aller se faire payer, parce qu'en général, bon, c'est très compliqué de se faire payer, de payer l'hôpital, comme vous savez. Mais bref. Donc, ils ne sont pas tous enregistrés d'abord. Bon. Mais vous savez que la consultation en moyenne en urgence, ça coûte entre 150 et 200 euros. Voilà. Et donc, que l'hôpital la rembourse 22 euros me paraît pas raisonnable. Alors, vous savez qu'il y a également un débat sur les médicaments, je vais y revenir, hein, sur les médicaments et produits coûteux. C'est une bonne idée, mais c'est même une très bonne idée pour des raisons que vous connaissez. Hein. C'est-à-dire que si les médicaments ou prothèses ou tout ce que vous pouvez imaginer étaient dans le tarif, ça donnerait une rente à ceux qui ne le prescrivent pas. Donc ça implique une conduite thérapeutique. Donc je pense qu'il est bon qu'un certain nombre de choses soient hors GHS pour laisser aux médecins la liberté clinique. Mais tout le problème est de savoir comment débattons de ça. Et je vous ferai une proposition tout à l'heure qui est une proposition ancienne. Voilà. Par ailleurs, mais je vais y revenir, je suis un farouche opposant de la loi HPST, dont je pense qu'elle ne résolvera rien et que je pense qu'elle fera exactement le contraire de ce qu'elle a dit qu'elle ferait, parce que c'est une réforme stalinienne. Au sens réel du terme, je n'utilise pas ces mots pour être provocant ou pour vous faire sourire, c'est que, en fait, la réforme HPST, l'hôpital disparaît. L'hôpital se fond dans l'État, et donc vous avez les hôpitaux qui ont pratiquement plus d'autonomie, je vais y revenir, les ARS, et le ministre. Alors qu'à mon avis, c'était exactement l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait couper. Et vous voyez que les pays comme le Royaume-Uni, qui étaient organisés comme ça, font l'inverse, puisqu'ils créent des trusts qui donnent de l'indépendance aux hôpitaux publics. C'est pareil en Allemagne. Et que nous, c'est très curieux qu'un gouvernement qui se réclame de la droite parlementaire fasse une réforme soviétique. Mais enfin, c'est comme ça. C'est d'autant plus curieux que ce débat en philosophie politique est un débat qui remonte au 19e siècle, même au 18e. Hein, parce que à la régulation bureaucratique s'ajoute toujours de la régulation politique. Et que si le ministre actuel ou son successeur ferme l'hôpital le plus vide et le plus dangereux, ou le service le plus vide et le plus dangereux de France, le lendemain matin, le sénateur-maire ou le député est dans le bureau de la ministre en disant: Roselyne, écoute, on est 2 mois avant l'élection, tu ne peux pas me faire ça quand même. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, il fallait que le ministre puisse répondre à cet élu: mon grand, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. L'hôpital dont tu me parles est en déficit. La qualité des soins qui sont pratiqués n'est pas acceptable, ne sont pas acceptables, donc on ferme et c'est pas moi qui décide. À partir du moment où la main du ministre est visible, donc c'est un débat en théorie économique sur la main visible et la main invisible, eh bien, ça marche pas. Et si vous croyez que les ARS vont choisir comme directeur d'hôpital les directeurs les plus combatifs, vous rigolez. Ils vont choisir ceux qui leur conviennent. Voilà. Comme vous le savez, revenons au PPSI. Comme vous le savez, donc, il y a eu plusieurs extensions du champ. Il y en a une vers la psychiatrie et puis d'autres vers les soins de suite, notamment. Un mot sur la psychiatrie, donc, qui est aussi quelque chose qui me passionne et depuis longtemps. Bon, comme vous le savez, il y a un débat à l'intérieur de la communauté psychiatrique sur la classification nosologique. Vous savez que donc il y a un débat entre la classification américaine et les classifications européennes, que pour l'instant ce sont les Américains qui ont gagné, mais que vous voyagez épistémologiquement beaucoup plus quand à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, vous changez de secteur et de patron que quand vous allez d'un service de cardio à San Francisco à un service de cardio à Marseille. C'est-à-dire, on fait la même cardio à Marseille et à San Francisco, on ne fait pas la même psychiatrie. Alors, il y a une thèse de sociologie très intéressante de cette université-ci. J'étais au comité de thèse sur la formation des psychiatres à Bordeaux et à Toulouse. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Les uns sont des freudiens religieux. Et les autres sont des psychiatres biologiques. Bon, voilà. C'est pas pareil, hein. Bon. Donc, la seule chose que l'on puisse faire en psychiatrie, à mon avis, c'est de mesurer la lourdeur de la prise en charge. Là, les psychiatres sont assez d'accord pour dire que c'est un malade lourd ou pas un malade lourd, et que, à mon avis, le système actuel est un système qui induit un niveau de détail beaucoup trop précis qui n'est pas conforme. Et je pense qu'on aurait une grille avec très lourd, moyennement lourd, assez lourd, peu lourd. Ça serait aussi bien que le truc un peu compliqué qui est en vigueur en ce moment. Bon, le moyen séjour, vous savez ça aussi, c'est en fait des mesures de la dépendance. Mon équipe au Conservatoire des arts et métiers travaille beaucoup sur la prise en charge des handicapés mentaux adultes. Donc on a fait une étude récente là, dont je peux vous dire un mot pour la CNSA sur les masses, les femmes, etc. Et on montre qu'il n'y a aucun lien entre la lourdeur des personnes prises en charge et les budgets de ces établissements. Mais vraiment zéro, zéro, aucun lien. Et on montre aussi que quand on compare MAPGIR avec une grille beaucoup plus simple, c'est la grille la plus simple qui a le meilleur pouvoir explicatif. Bref. Alors, alors la situation actuelle, le paradoxe, c'est que vous avez les hôpitaux ceinture et bretelles. C'est-à-dire que vous avez T2A et dotation globale. Parce que quand vous regardez les pouvoirs des ARH et aujourd'hui des ARS, ils peuvent contrôler les volumes. Donc il y a une espèce de paradoxe qui est d'avoir voulu monter un système de financement où on dit aux hôpitaux, écoutez, vous avez la liberté de développer leur activité, et par ailleurs l'ARH ayant la possibilité de bloquer par des contraintes peu appliquées, mais potentiellement applicables, le niveau de ressources. Alors, voilà. Alors, le débat... Si vous voulez, mon point de vue, après donc, de longues années consacrées à ce secteur, 40 ans maintenant, c'est qu'il ne faut pas que l'État rentre dans la boîte noire. Alors ça, c'est un jargon de gestionnaire. La boîte noire, c'est l'organisation. Vous savez que l'hôpital est probablement l'institution la plus complexe qui existe. Je vais y revenir en deux mots. Et que quand on normalise, on surdétermine certaines fonctions par rapport à d'autres. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 43 familles de règlements sur la sécurité qui s'appliquent à l'hôpital. 43 familles. Alors, la sécurité incendie est une de ces 43 familles, mais des pompiers ont complètement pété les plombs. Personne ne dit aux pompiers que leur réglementation est totalement déraisonnable. J'ai calculé que la réglementation incendie, alors je suis pour la réglementation incendie, mais pas n'importe quoi, pour sauver une vie coûte à peu près 1 milliard d'euros la vie abstraite sauvée, alors que dans les hôpitaux, il y a une bonne partie de la population qui ne se lave pas les mains. Donc vous voyez, on a une espèce de sursécurité qui en plus ne marche pas, parce que les portes coupe-feu sont toujours ouvertes, parce que comme on passe avec des chariots et des machins, donc on met des cales pour les coincer, enfin bon, bref. Bon. Donc il y a la pharmacovigilance, hémovigilance, la matériovigilance, enfin j'en passe. Et je crois que la sagesse voudrait que l'État contrôle l'activité des hôpitaux et la qualité des soins et laisse les directeurs diriger et les médecins responsables diriger. Et donc c'est un peu l'inverse qui est fait. Et ça, à mon avis, énormément de conséquences. Alors l'hôpital est une organisation compliquée. Trois réflexions. Un, vous avez à l'hôpital 5 sources de légitimité. Vous avez la légitimité du savoir. Ça, c'est celle des médecins. Vous avez la légitimité du financeur. Vous avez la légitimité de l'État. Vous avez la légitimité syndicale. Et malheureusement, vous avez aujourd'hui, et j'insiste sur malheureusement, la légitimité de l'usager. Je pense, contrairement à la loi Kouchner, que la loi 2002 était vraiment dangereuse. Je pense que les usagers sont légitimes quand leur vie change du fait de leur maladie. Donc je pense que les malades séropositifs sont légitimes, je pense que les diabétiques sont légitimes, je pense que les malades mentaux et leurs familles sont légitimes, mais je ne suis pas certain que parce qu'on a un cancer, on doit se déclarer usager. Moi, j'ai boité pendant 6 mois et j'ai aucune envie de créer l'association des boiteux du 3e arrondissement de Paris et me présenter comme usager au conseil d'administration de l'assistance publique. Donc je me méfie toujours de l'idée qui pousse quelqu'un à se déclarer comme usager et quelle est sa légitimité. Il y a un vrai problème de légitimité. Bon, bref, déjà ça, c'est pas facile. Mais quand vous prenez les spécialités médicales, les facultés de médecine en reconnaissent 57, en fait, il y en a 150, puisqu'à l'intérieur de la cardio, il y en a une douzaine déjà, orthopédie, traumatologie, il y en a 5 ou 6. Et quand vous regardez ce que fait la DOS, qui a changé de nom là, DGOS, ouais, elle a sur son site internet 184 métiers. Donc l'hôpital, un grand CHU comme celui de Bordeaux, c'est une centaine de spécialités, en gros 200 métiers. Donc ça fait une matrice de 100 par 200, donc ça fait 20 000. Hein. Alors il y a des cases vides, bien entendu. Et avec des sources de légitimité différentes. Alors, quelle est la manière, ce problème est universel, il n'est pas uniquement français, quelle est la manière dont les autres pays traitent de ce problème? C'est que ce qui compte, c'est l'institution. C'est-à-dire qu'on arbitre toujours au nom du CHU de Bordeaux et que les autres légitimités sont des légitimités secondaires. Or, le danger avec la loi HPST, c'est que, en fait, vous allez avoir en parallèle les différentes légitimités qui vont remonter aux ARS, à l'ARS. Puisque le conseil de surveillance n'a pas beaucoup de pouvoir, puisque, etc. etc. Bref. Quant à vous, c'est à vous de répondre, mais quand j'ai imaginé la création des DIM, j'ai certes pensé qu'un jour on coderait sérieusement, mais je ne suis pas sûr que... enfin, je pense que c'est un travail de technicien, ce n'est pas un travail de médecin, et que les DIM deviendraient en fait non seulement les gestionnaires de la qualité de leur hôpital, mais comme vous le savez, et j'ai presque fini, aujourd'hui 70% des dépenses d'assurance maladie, ce sont des malades chroniques, que comme en France, on hospitalise trop, vous savez qu'en France, c'est 70%, on hospitalise 70% de plus que la moyenne des pays comparables. En France, le dernier chiffre de l'OCDE, 262 admissions pour 1000, et la moyenne européenne, enfin de l'OCDE, qui n'est pas seulement européenne, c'est 150. Donc en France, on hospitalise trop. Et ce que n'a pas fait la loi HPST, c'est qu'elle n'a pas fait un budget régional. Et donc les caisses d'assurance maladie restent responsables de la médecine de ville. L'ARS est responsable de l'hôpital et des cliniques, d'ailleurs pareil. Or, on sait très bien que le vrai problème de l'avenir du système de santé en France, c'est de s'assurer que les malades chroniques sont au bon endroit au bon moment. Et comme du fait de la disparition des généralistes qui, moi, m'inquiète énormément, l'hôpital devient le généraliste des pauvres. Et donc c'est la raison pour laquelle on a une très forte croissance des consultations externes et parce que les consultations externes en ville, même à 23 euros, à mon avis, ne sont pas assez bien payées. Alors, ça, c'est un graphique que certains d'entre vous connaissent peut-être qui est fait par mes amis canadiens. Mais pour vous montrer que dans la vie d'une institution, c'est l'avant-dernière diapo, dans la vie d'une institution, la partie financière n'est pas la seule et qu'on est obligé de conserver d'autres manières de voir pour que cette institution ait notamment le maintien des valeurs. Donc si vous voulez, le problème c'est pas uniquement la production, mais vous avez d'autres choses que vous devez faire simultanément. Alors j'en termine. En revenant à la T2A et en disant que j'avais proposé, donc ça, Rawls, c'est, John Rawls, c'est l'auteur de Théorie de la justice, et que si vous n'avez pas lu ou si vous ne connaissez pas John Rawls, c'est quand même un philosophe politique qu'il faut connaître. Et j'avais proposé il y a une vingtaine d'années à Gérard Vincent quand il était directeur des hôpitaux, je lui avais dit, écoute, pour gérer la T2A, il faut avoir un débat public et transparent sur la classification, qui est quand même l'aspect essentiel. Hein. Et que chaque année, ou tous les 2 ans, parce qu'on a, à mon avis, on n'a pas besoin de revoir les CMD chaque année, Il y a une procédure, le ministère sort la nouvelle classification en janvier, les sociétés savantes, les hôpitaux publics et privés peuvent en débattre, vous arbitrez, vous expliquez pourquoi vous avez arbitré. Et notamment tout le débat sur les médicaments coûteux nécessite, à mon avis, un débat public pour savoir ce qu'on met dedans, ce qu'on ne met pas dedans, comment ça évolue, etc. Comme le détail de la classification. Voilà. Et donc, je terminerai en disant une fois l'importance des concepts et de leurs mesures pour revenir au MIGAC et dire qu'il y a, à mon avis, un certain nombre de fonctions hospitalières qui ne sont pas découpables en tranches, d'autant que le thermomètre, notamment pour les consultations externes et pour certains GHS, est un thermomètre très imparfait. Voilà, merci de votre attention. Alors, comme vous le savez, il y a d'abord un débat philosophique et ensuite un débat technique. Alors, on va commencer par le débat technique. Vous savez que, apparemment, la classification des cliniques privées est la même que celle des hôpitaux publics, mais que ceci n'est que d'apparence, puisqu'on a donné donc 1000 points à l'accouchement par voie basse dans les deux cas, mais que le poids relatif des GHS a été fait pour les hôpitaux publics à partir de la base de données de comptabilité analytique sur les 60 hôpitaux, et que pour les cliniques privées, ce n'est pas du tout ça qui a été fait. On a pris la tarification 2002, et on a... Alors ça, on ne peut plus l'utiliser, puisqu'il n'y a plus la tarification 2002. Et en plus, cette histoire est une moyenne de rien. Si vous voulez, quand j'ai avec Dominique Polton, là, qui il y a longtemps, et Roland Cache, en 91, pour la CNAM, on a regardé... pour les cliniques privées, les prothèses totales de hanche. Alors, à l'époque, ce que payait l'assurance maladie pour une prothèse totale de hanche, en moyenne par clinique, hein, variait de 1 à 3. Ça variait de 100 à 300. Et ça s'expliquait, comme vous le savez, par trois phénomènes. Le premier, c'était la durée de séjour. En moyenne par clinique, on n'avait pris que des cliniques qui avaient plus de 50 PTH. Hein. En moyenne par clinique, ça variait, la durée de séjour variait de 10 jours à 26 jours. Donc la moyenne de ça, c'est 18 jours. Vous me suivez. Il y avait des variations de tarifs à l'époque, puisque la convergence tarifaire n'était pas aboutie, et puis il y avait aussi des variations de codage. Donc, quand vous avez fait la méthode de 2002, contre laquelle j'étais, vous avez pris des moyennes de pratiques cliniques qui n'ont rien à voir avec un optimal quelconque. Parce qu'à l'époque, j'avais demandé à deux amis orthopédistes, dont un d'ici d'ailleurs, j'ai dit à ton avis, mais c'est quoi la durée de séjour pour une PTH 91? Il m'avait dit 7 jours. Et la moyenne était 18 jours. D'accord? Alors, moi, j'ai proposé, et je repropose, et je pense qu'un jour ça se fera, de faire ce que l'on appelle des prix reconstitués. Alors, c'est assez simple. Ça part de la médecine, et vous demandez au médecin de vous décrire une conduite thérapeutique de référence. Donc, combien d'heures de bloc, combien de jours de réa, combien de jours, etc. Et vous calculez le coût analytique de l'unité d'œuvre, et vous recomposez le tarif. C'est ça qu'il faut faire. Bon. Et d'ailleurs, à mon avis, il n'y a aucune raison que la moyenne soit quelque chose qui est de normatif. Enfin, surtout qu'on sait que c'est totalement faux. Donc, voilà. Alors, donc, ça, c'est la partie technique. La partie politique, c'est que certes, les médecins libéraux sont payés à l'acte, mais on pouvait très bien chaîner. C'est le débat sur le chaînage. Et donc l'ADH de l'époque, DOS ou DGOS, peu importe, a choisi deux échelles. Je pense que c'est idiot.
C'est une question extrêmement importante qui est à l'étude par les deux collèges à l'heure actuelle justement de santé publique, aussi bien le CIMES que le QESP, qui ont été reçus par la DGOS sur ce sujet. et qui sont en train d'étudier, bah, François Collère pourra en parler puisqu'il fait partie, il est le représentant du CIMES sur ce sujet, donc d'étudier justement la faisabilité d'une offre, j'allais dire un petit peu coordonnée, parce qu'il y a des masters, il en existe, on ne peut pas dire qu'il n'existe rien. Je pense que Pierre Lebeuz et Mario Fieschi ne seraient pas très contents qu'on dise. Des masters existent. Bon, maintenant, il faut peut-être qu'effectivement, il y ait une coordination nationale et les collèges sont en train de travailler dessus. Pour ce qui concerne les travaux qui sont faits sur le PMSI, je crois qu'il faut aussi pouvoir dire qu'en France, il n'y a pas vraiment d'appel d'offres qui permettent de mener ces travaux dans des conditions décentes. C'est-à-dire que ce sont les hôpitaux qui accueillent, qui hébergent ou qui les personnes qui travaillent sur ces sujets qui payent les frais de ces études, puisqu'il n'y a pas moyen, alors des études qui sont quand même extrêmement importantes, étudier l'incidence et la prévalence des maladies en France, connaître, arriver à savoir combien on a de malades d'une pathologie donnée, je parle du cancer, mais on peut parler de n'importe quelle pathologie, que ce soit les infarctus du myocarde, on est incapable de savoir combien on en a, on est incapable de savoir comment sont organisés les soins, alors qu'il y a, à partir des données de la base nationale, des travaux qui pourraient être faits dans ce sens.
Si vous permettez, Madame la Présidente, de poursuivre votre idée, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est les variations. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui est intéressant, ils n'ont pas, à mon avis, choisi par hasard la fracture du col, parce qu'on sait depuis les études américaines que les fractures du col, en gros, c'est proportionnel à l'âge et au sexe, donc il n'y a pas beaucoup de variations. Mais quand, comme moi, vous regardez, en utilisant les bases PMSI, on a publié ça en 2003, la prise en charge de l'infarctus du myocarde, ça a tombé par terre, hein. Et ça me permet d'insister sur quelque chose d'important, d'ailleurs, lié au PMSI. Le taux d'infarct par département varie de 1 à 2. Et c'est une carte qu'on connaît tous bien, c'est la carte de la pauvreté. Bon, bref. Les pourcentages coronariens varient de 1 à 4. Et on n'a pas 4, là, on a 2. Et la cardio-interventionnelle, vous êtes assis, varie de 1 à 31. De 1 à 31. Alors, ça me permet d'insister sur quelque chose que je dis depuis le début et qui est une des déviations du PMSI, c'est qu'on demande au PMSI beaucoup trop de choses. Le PMSI ne fait pas tout, et notamment le PMSI ne voit pas, il permet de voir, mais pas de décider, sur le bon taux de prise en charge. Donc il faut absolument que, notamment dans les CHU, les DIM fassent des analyses régionales et qu'entre vous, vous fassiez des comparaisons interrégionales, parce qu'il est absolument évident, quand vous regardez la prise en charge de la cataracte en France, la meilleure corrélation, c'est quand même le nombre d'ophtalmos. Hein. Donc, il est clair qu'il y a des surprescriptions, on connaît les actes surprescrits, on sait aussi qu'il y a des sous-prescriptions. Dans une étude que j'avais faite en 1995 sur la cardio, là aussi, les résultats n'ont jamais été répliqués, mais c'est absolument sidérant. On a regardé ce qu'un malade, en ville, hein, on a regardé ce qu'un malade payait quand il sortait du cabinet du cardio. Et à l'époque, ça variait, en moyenne par département, hein, de 170 francs à 430 francs. Non. Quand on regarde les revenus des cardiologues, toujours en moyenne par département, et c'est toujours le cas, ça varie de 1 à 3,5. Ça variait de 400 000 francs à 1,3 million. Et rien n'explique rien. Alors, ni la morbidité, donc c'est pour ça que moi j'interdis à mes élèves d'utiliser le terme de besoin, parce que c'est une farce. Donc, ni la morbidité, ni l'économie. Donc vous aviez des départements où il y avait des cardiologues qui vivaient très bien avec 600 malades et d'autres très mal avec 6000. Et on a les bases de données aujourd'hui pour regarder ça. Personne ne regarde ça. Personne. Et les dépenses de cardio par département varient de 1 à 9. Et donc on a à la fois sous-prescription, sur-prescription et prescription inadaptée. On a les trois.